Poirier, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. C'est un plaisir évidemment de vous retrouver cette semaine, toujours pour parler 9e art, toujours pour parler bande dessinée. Et cette semaine, ben, ce n'est pas une semaine ordinaire puisqu'on est en mode club de lecture. Alors, ça veut dire que je ne suis pas seul autour de la table aujourd'hui. Je suis en compagnie de mes collègues Marco Duchesne de chez Pantoute. Bonjour.
Bonsoir.
Également de chez Pantoute, Édouard Tremblay.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Et un lecteur passionné, Jérôme Vermette, salut.
Salut.
Alors évidemment, on est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va faire un club de lecture. Alors je rappelle un peu les règles du jeu pour ceux dont c'est la première écoute. Alors on va prendre 30 secondes pour expliquer comment ça marche. Eh bien essentiellement, à chaque mois, on se partage chacun une thématique. Donc à tour de rôle, on va sélectionner un thème et chacun des quatre participants au club de lecture sera appelé, lui, à sélectionner un album, un livre de son choix. Et évidemment, les quatre livres sélectionnés seront discuter et orienteront donc les discussions au fil de l'heure qu'on partage ensemble des moments intimes et précieux. Alors, pour ce mois-ci, si je ne me trompe pas, c'était Marco qui avait fait la sélection du thème qui s'appelle « Rêver la réalité ». Marco, je vais te demander pourquoi ce thème tout à l'heure, mais je vais commencer par faire la nomenclature des titres que vous avez sélectionnés et que nous avons sélectionnés. Alors, il s'agit de Coma de Pierre Wazem et Frédéric Peters chez Du Côté des Humanoïdes Associés. Il y a également les deux parties du Vagabond des Étoiles, donc c'est librement adapté de Jack London par Riff Rebs. Il y a La Tendresse des Pierres de Marion Fayolle chez Magnani. Et enfin, il y a Peramus, La Ville et l'Oubli d'Alberto Breccia et Juan Sasturain. C'est chez Futuropolis. Alors, quatre titres, évidemment, choisis par quatre personnes et un thème choisi par une personne. Marco Duchesne, Rêver la réalité. Pourquoi?
Parce que j'aime ça. En fait, au moment de choisir, et depuis le temps qu'on en fait, à un moment donné, il faut commencer à réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans une bonne histoire? Et souvent, ce que j'aime, et parce que je suis un lecteur docile et souvent très naïf, donc l'histoire qu'on me conte, souvent pour moi, c'est la réalité. Donc, moindrement que le personnage principal de fiction, comme un de mes personnages préférés, comme Corto Maltese, rencontre des personnages historiques ou fait face à des moments historiques connus et qui s'imbriquent dans une espèce de réalité fictionnelle. Ah oh, là, ça, j'adore ça et j'y crois. Que Corto Maltese ait existé, j'en ai douté à un moment donné. Tout ça me vient de ce fameux diptyque de Blueberry, fait par Charlier et Giraud, où La Mine de la Mort Perdue, à sa parution, avait un cahier à la fin où on nous racontait la biographie de Blueberry et il y avait cette fameuse photo de la guerre de sécession chez les nordistes où il y avait Blueberry. On nous indiquait qu'il y avait Blueberry et j'y ai cru longtemps. Donc, pour moi, ce thème était comme un peu personnel, c'est-à-dire, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que j'irais... J'adore cet aspect-là, donc j'ai rêvé de la réalité, c'est-à-dire, dans la fiction, amener la réalité et la rendre crédible. Et Corto Maltese, c'est pour ça que c'est un de mes héros préférés. Et pour moi, j'ai choisi cet album. Je te parle de l'album.
Mais plongeons dans l'album, oui, effectivement.
Ben, alors, pour moi, j'ai choisi Peramus, qui est un album qui est enfin une intégrale des épisodes qui étaient parus dans des magazines italiens à l'époque, les années 80-90, d'Alberto Breccia, que moi je considère comme un des grands génies de la bande dessinée argentine, et Juan Sasturain, qui est le scénariste, et qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui est amnésique, mais qui a voulu être amnésique volontairement, et qui se ramasse dans une Argentine où, sous une dictature. Et ce personnage-là va trouver des quêtes au fur et à mesure, mais aussi va être mentorisé par Borges. Il va rencontrer des personnages connus, de tous, et parfois des personnages connus d'une certaine société argentine et tout. Donc, il se promène là-dedans, on nous raconte des histoires, on navigue à travers cette fameuse dictature qui est montrée un peu par symbole. Les soldats sont des squelettes, ils ont des allures avec des têtes de mort et tout. Et là, on va y aller avec des quêtes un peu intellectuelles, un peu littéraires. Borges va chercher, et surtout la dernière quête qui pour moi est un petit chef-d'œuvre, de trouver les dents d'un fameux danseur de tango. Et chercher ces dents-là, on va être aidé par Frank Sinatra, par des personnages, Fidel Castro. Bref, cette réalité-là, cette fiction-là qui flirte avec la réalité des personnages connus, moi, ça m'a conquis. Et pour moi, Pyramus, enfin publié aux Humanoïdes Associés en un seul volume, pour moi, je considère que c'est, ouais, je vais le dire, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Alors, un chef-d'œuvre, donc, Marco Duchesne nous a partagé en lecture, donc, chez Futuropolis, je le rappelle. Et je continue, en fait, je me suis comme pas noté qui avait apporté quoi. Alors, j'irai peut-être avec, tiens, Le Vagabond des étoiles, et je me dis que c'est le profil Édouard Tremblay.
Oui, tout à fait, hein, ben, d'emblée, je veux dire, une adaptation de Jack London, on se trompe pas, hein, c'est un grand auteur, quelqu'un qui est capable, justement, de nous faire, de nous transporter.
Mais c'est pas Cro-Blanc.
Ben non, il y a autre chose que Jack London, hein, qu'à Cro-Blanc, la peine de la forêt, hein, pour ceux qui ont une culture et ont lu un peu dans leur vie. Donc, il y a ses œuvres absolument, c'est ça, hein, magnifique. Et Riffreb, c'est pas la première en plus qu'il adapte, il avait adapté aussi le Loup des mers, également de London. Mais donc, il récidive ici en deux tomes avec Le Vagabond des étoiles. Et je trouvais en fait que le propos se prêtait en fait parfaitement bien justement à cette idée de rêver sa réalité, dans la mesure où là, on va suivre un gars qui est incarcéré, un prisonnier, et qui va, par tout un concours de circonstances, être foutu au trou. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est isolation totale et tout. Disons, c'est pas mal le pire que vous pouvez vous retrouver en étant un prisonnier. Et donc, pour lui, cette capacité de rêver, cette capacité qu'il va développer de sortir de son corps et de visiter ses vies antérieures, en fait, sera justement sa façon de rêver sa vie, sa façon, bien sûr, aussi d'échapper à cette situation qui est un peu plus terrible, un peu plus sinistre, en fait.
Et la notion d'échapper, de s'échapper un peu d'une réalité qui est parfois difficile ou de trouver des façons de l'amener, c'est ce qui m'a orienté un peu vers La tendresse des pierres de Marion Fayolle, une BD que j'avais achetée, ça fait déjà un bout de temps, je pense, dans un passage à Angoulême, ça se plaque bien dans une conversation. Il y avait une exposition autour de cette BD-là, et je ne sais pas, d'un point de vue visuel, en fait, il y avait quelque chose qui m'avait happé dans le style, dans l'approche graphique de Fayolle, c'était, je crois, son premier album aussi. Et donc, le visuel m'a happé dans un premier temps. Puis éventuellement, ben, dans le fond, on lit l'album, on découvre l'histoire, le récit qui est proposé, où on nous amène, dans le fond, à travers l'agonie d'un père qui est raconté par à travers le regard de sa fille. Un père qui avait une relation qui n'était pas nécessairement toujours facile avec sa famille, qui n'était pas nécessairement toujours présent et qui se retrouve du jour au lendemain omniprésent, qui se retrouve du jour au lendemain un peu suzerain de sa maison, de son domicile, mais suzerain un peu involontaire dans la mesure où il essaie de garder le contrôle sur ce qu'il peut, sachant que sa vie entière est en train de s'écrouler. Les premières pages, on nous présente justement les parties de son corps qui le laissent. On comprend la maladie à travers l'allégorie, donc un poumon qui est retiré, le nez qui est amené sur la gorge, la bouche qui est retirée, donc sa capacité de s'exprimer, de parler, qui tombe, etc., etc. Et Fayolle l'amène vraiment, et l'ouvrage entier, dans le fond, est au bout du compte, un peu sur le jeu, à défaut d'une meilleure figure de style qui me vient en tête, mais sur le fond de la métaphore. Donc, on nous amène un peu autour de la maladie, mais sans, comparativement à d'autres albums dont on a traité ici au Club des Lectures, sans l'aborder peut-être de front, en la montrant telle qu'elle est, et on la montre, mais à travers des images, à travers des illustrations. On parle du malaise dont je parlais, de la place que vient à prendre ce père-là dans la réalité familiale, mais on en parle par le biais d'une métaphore vers l'enfance, d'un retour vers des âges un peu plus jeunes. Et je trouvais que dans le contexte justement de rêver la réalité, ben, rêver quelque chose, c'est aussi trouver des façons qui font peut-être un peu moins mal de vivre, de ressentir ou d'exprimer des choses. Et je trouvais que l'ouvrage de Fayolle, qui est absolument touchant d'ailleurs à mon avis, ben, s'inscrivait bien justement dans le contexte de la thématique fort agréable en termes de lecture d'ailleurs, là, qui a été partagée par, par Marco. Et voilà pour moi. Et Jérôme, de ton côté, tu as été vers Coma.
Oui, puis donc en faisant les lectures cette semaine qu'on avait, j'ai bien hâte qu'on en discute parce que je me suis aperçu qu'on a vraiment pris toute la gang à cœur les deux aspects de la phrase de Marco, à la fois le rêve et la réalité. On est dans quatre BD qui sont teintés de symbolisme et d'allégorie, d'onirisme, je ne sais trop quoi. Alors, Coma, d'ailleurs, que j'avais au départ choisi pour le thème précédent qu'on a eu, l'enfer, parce que, à quelque part, il se passe dans un univers, ben, j'ose dire kafkaïen, dans le sens que la réalité qui est montrée, c'est une réalité qui est écrasée par le monde du travail, que ce soit celui des ouvriers. Le personnage principal qu'on suit, c'est une petite fille qui suit son père, qui est ramoneur de cheminées. Et les cheminées, là-dedans, on ne sait pas à quoi elles servent nécessairement, mais elles servent, elles doivent être ramonées, en tout cas, et elles sont l'entrée dans un monde souterrain, où la petite fille rencontre des créatures qui, elles, travaillent à s'assurer que les humains en haut continuent à vivre. Donc, la vie elle-même est vue comme un travail là-dedans. Donc, c'est une réalité assez crue, d'une certaine manière. Et elle, avec son, sa naïveté, éventuellement, va finir par en sortir et à créer sa propre réalité vers la fin. Excusez-moi pour les spoilers, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et là, cette réalité-là va être totalement différente. Donc, d'une certaine manière, elle vole son rêve. Et puis, c'est là que je me suis aperçu que ça parlait un peu du thème qu'on avait ce soir. Et là, on va pouvoir débattre là-dessus tantôt. Mais que son propre rêve prend forme vers la fin. Et c'est quelque chose de beaucoup plus bucolique, évidemment. Mais bref, je résume du mieux que je peux cet album qui est quand même assez... assez dense.
Et d'ailleurs, en fait, pas mal tous des albums assez denses et assez volumineux cette semaine. On a besoin d'un gros sac pour se les partager. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux passages obligés en ce qui concerne le club de lecture. Le premier revient presque des premiers clubs de lecture. Donc, c'est les transitions d'Edouard qui sera maître des transitions. Mais avant, depuis le début de la présente saison, il y a un autre passage obligé qui est, et là, je vais le dire, fait comme ça, on n'aura pas besoin de le radoter pendant la prochaine heure. À quel point nos sélections étaient différentes et appropriaient de façon variée une même thématique et à quel point c'est donc bien sympathique. Voilà, alors c'est dit, c'est officiel, c'est mis sur la table. Maintenant, on va parler du reste.
Alors, quand même, une sélection assez éclatée. Hein, ça peut... Non, mais blague à part, en fait, je vais même me porter même comme avocat du diable, en fait, parce que justement, effectivement, évidemment, les thèmes, le traitement et tout est très différent des quatre BD. Et comme Raymond soulignait, on vous habitue à ça maintenant depuis quelques temps. Mais ce qui m'a frappé dans les quatre, c'est que le rêve est une arme. Le rêve est une armure. C'est simplement que on se bat à divers niveaux. Autrement dit, et je pense que c'est comme ça, en fait, j'aurais envie qu'on oriente les transitions, en fait, qu'on oriente toute la discussion, parce que à chaque fois, le rêve vient justement comme une armure, comme une protection, comme une catharsis, comme quelque chose qui nous permet d'échapper ou de combattre une réalité qui est difficile. Là où ça change, au-delà, bien sûr, du traitement des BDistes, bien sûr, c'est... à quoi on fait face ou dans quelle proportion on a à faire face. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Vagabond des étoiles, ben, c'est quelqu'un qui est contre lui-même, il est seul, il est en prison, il s'évade de lui-même, de son propre enfermement. Dans Marion Fayolle, on s'évade d'un tiers, en quelque sorte, donc quelqu'un qui est très près de nous, mais qui est quand même pas notre personne et dont on doit un peu s'évader ou en même temps se protéger. Dans Coma, on est à l'ampleur d'une cité. Et dans Pyramus, on est à l'ampleur d'un pays. Mm-hmm. Mais à chaque fois, le rêve, l'onirisme, on oserait même dire le surnaturel, vient se porter comme ça, comme armure, comme protection, comme outil pour affronter, pour défaire ou pour comprendre cette réalité qui nous tombe dessus.
Et tout ça, ben, dans le fond, comme tu le dis, j'aime bien ton image, en fait, de l'individu jusqu'à une nation, en passant par le foyer familial, par la cité. Donc, différentes manières et différents lieux desquels on peut s'évader. On est très poétique.
Ah non, mais je l'ai bossé quand même. Mais donc, j'irai, en fait, je sais pas, quitte à commencer. Donc, allons-y avec le plus, disons, le plus privé, en fait, ou plus personnel. Donc, Vagabond des étoiles, ou comme je le disais, là, c'est vraiment quelqu'un qui est prisonnier de lui-même. Et parce que, bon, je vous expliquais qu'évidemment, le type est mis au trou, mais en plus, on va lui enfiler, et vous comprenez que c'est la prison dans les années 30, les années 40, on n'a plus le droit de faire ça, une camisole de force, écoutez, qui couvre tout le corps, qui est serrée, lacée avec grand renfort de méchanceté et de cruauté, ce qui fait qu'on devient, évidemment, enfermé là-dedans, et pendant plus d'une semaine, je ne peux même pas imaginer le calvaire que le corps doit endurer avec tout l'engourdissement, avec tout le... Et ce gars-là, comment il réussit justement à non seulement passer à travers ça, mais à se moquer même de cette torture-là, à dire non, serrez donc plus, je suis capable d'en prendre encore plus. Comment il tient tête à ses matons, à ses bourreaux? Eh bien, c'est ça, c'est le rêve. Parce que lui, en ayant développé cette capacité progressivement de sortir de son corps, eh bien là, avec ça, on va aller vivre les vies antérieures qu'il a vécues. On va aller voir justement que il a été partout. Il a été homme, il a été femme, il a été noir, il a été blanc. Il a exploré toute la diversité, tout le florilège riche de l'humanité. Et ça fait que même s'il est là derrière les barreaux, promis à la mort, eh bien, il est peut-être encore plus libre qu'il l'a jamais été, à quelque part.
Tu as tout à fait raison, puis c'est très poétique, mais quand tu y penses, et puis, ça, je trouvais ça intéressant, la postface à la fin qui dit que c'est parti un peu de la propre expérience de Jack London, là, qui a vécu le système carcéral et que son Vagabond des étoiles se voulait un peu un pamphlet là, contre le système carcéral. D'ailleurs, ça revient un peu là, dans le scénario, là, quand c'est le personnage là, qui écrit ses pensées, il dit « Toi, payeur d'impôts, tes impôts servent à ça, à faire souffrir les gens », mais ceci étant dit... Il y a quelque chose de puissant en dehors du rêve là-dedans, je trouve, dans Le Vagabond des étoiles, à chacune des histoires. Cet appel à l'humain de se tenir debout, quel qu'en soit le prix. Dans chacune des histoires que le personnage vit, il est toujours ce qui nous paraît être le bon côté. Je ne crois pas me tromper en disant ça, mais... sa fameuse colère rouge l'amène à passer ce fameux... j'ose reprendre encore la formule d'Henry James, ce fameux tour d'écrou supplémentaire qui fait que, ben, finalement, just too bad, parce que tu tiens à tes principes, le commun des mortels te suivra pas puis va peut-être t'écraser. Il y a quelque chose de très... puis pourtant, c'est pas nihiliste, mais d'un appel à se tenir debout qui montre que c'est pas évident, je trouve, dans ce livre-là, qui est dessiné d'ailleurs de main de maître, je trouve, là, par Ray Frebs. C'est un peu difficile à la radio de parler de graphisme, tout ça, mais les quatre ouvrages qu'on a sont encore dans un traitement graphique absolument différent là, les uns des autres. Vraiment, là. Une belle approche de ce thème-là, à la fois du rêve et puis de la réalité.
Moi, ce que j'ai aimé, j'ai pas lu le roman, mais de la façon dont c'est raconté, je pense que ça doit être très proche de la manière dont le roman est construit. Et ça m'a beaucoup rappelé un roman que, en fait, c'est un roman, mais à la fois aussi recueil de nouvelles. C'est L'homme tatoué de Ray Bradbury, où là, un homme est tatoué, rencontre... c'est un vagabond aussi, tiens donc. Et raconte un autre vagabond, et là, qui est tatoué de la tête aux pieds. Et là, le jeune homme fixe un tatouage et on a une histoire. Et c'est exactement ça. Dans le sens que, pour échapper à cette réalité-là de prisonnier, il va rêver des histoires. En fait, je suis très content de... le thème, quand je l'ai écrit, ça a été très vite. C'est pas ça que j'avais en tête, rêver la réalité. C'était la fiction versus la réalité, évidemment. Mais je suis très content de m'être trompé, d'avoir fait ça très vite, parce que je m'aperçois que, waouh, on a créé quelque chose. Donc, effectivement, moi, ça m'a beaucoup rappelé ça, et j'aime beaucoup cette structure-là, de prendre ce personnage-là comme l'homme tatoué, ou ce vagabond des étoiles, ce prisonnier, qui, forcé de ne plus bouger, parce qu'effectivement, moi aussi, Édouard, à un moment donné, la contention et tout, là, puis, tu sais, je m'imagine, j'arrive à pas bouger sur mon divan en écoutant la télé, mais il faut que je bouge, et une seule, et là, tu te dis, waouh, et effectivement, là, et se libérer de tout ça en rêvant des histoires comme ça. Donc, la structure de ça est vraiment, là.
Et ça répète casse-gueule côté structure, parce que pour moi, quand je croise des récits qui sont, au bout du compte, formés d'une série de courts récits, parce que c'est plein de courtes histoires, dans le fond, il y en a une, par exemple, où il se retrouve général romain ou centurion romain au temps de Jésus, où il y a des choix à faire, il se retrouve femme perdue sur une île déserte qui essaie de survivre pendant 8 ans d'un autre emprisonnement. Puis il y a plein, dans le fond, je veux dire, les vies d'ailleurs qui nous sont racontées, il y a toujours une notion d'emprisonnement, de perte de contrôle sur l'existence qui finissent généralement parfois assez bien, parfois assez mal aussi, il y a quand même une variété. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la structure, bon, oui, d'un côté, il y a une lisibilité qui est très claire parce qu'on nous amène avec des fonds de couleur d'entrée de jeu. Donc, si on a l'impression que d'une histoire à l'autre, on peut se perdre, ou d'une période de l'autre, on peut se perdre, ben non, ça, c'est clair, c'est réglé, on met ça de côté. Mais parallèlement, c'est qu'en termes scénaristiques, ça coule, c'est fluide. Dans le fond, on sent pas qu'on est dans, on n'a pas l'impression d'être dans un recueil de courtes histoires. On a l'impression d'être dans un récit global dans lequel les courtes histoires ou les courtes incartades dans certaines périodes de la vie viennent mettre en exergue donc certaines réflexions, certains propos, certaines préoccupations. Et en même temps, j'ai trouvé aussi assez intéressant que toutes les expériences que lui fait en vagabondant ne soient pas non plus parfaitement réussies. Donc, il n'y a pas l'entièreté des souvenirs. Il y a des zones de gris, il y a des zones de flou. Il doute de lui-même. Il y a même des moments où il dit, regardez, là, ce moment-là, je ne sais pas exactement qui j'étais. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il nous donne 2-3 bribes. On essaie un peu de bâtir l'histoire. Donc, ce qui fait qu'on est capable aussi, à travers cette structure-là, d'un côté, de suivre, lui, son fil de pensée au fil de ses rêveries-là, mais en parallèle, de voir aussi ses dimensions émotives, peut-être aussi ses réflexions par rapport à lui-même. Alors, je trouve que c'est bien utilisé. Et dans le contexte d'un roman de Jack London, évidemment, il y a beaucoup de premières personnes de narration, il n'y a pas tant de dialogue. On est beaucoup, et ça revient dans certaines BD, là, d'ailleurs, dont on parlera, une structure où on raconte une action qui est illustrée en bas, mais ça cadre bien parce que, justement, le dessin amène aussi quelque chose. Dans le fond, on est capable d'apporter quelque chose au-delà de simplement l'illustration de la narration pour nous amener dans des dynamiques de caractérisation, pour nous amener dans des dynamiques d'ambiance ou pour créer une belle unité aussi dans le ton puis dans l'esprit à travers les différents usages. Donc, non, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce
travail. Et c'est sûr qu'avec un gars comme Riffrave, justement, avec son usage de la monochromie qu'il maîtrise très, très, très bien, bien comme tu disais, ça coule de soi parce qu'à chaque fois que lui va changer un peu d'intention, de propos, d'émotivité dans la scène, et bien les couleurs de fond vont changer. C'est quelque chose qu'il utilisait déjà justement dans ses précédentes BD. Ça a toujours été un des gars très d'avant-garde là-dessus, et je trouve qu'il le fait avec une finesse et une intelligence. Il y a des BD où on sent qu'il y a de la monochromie ou de la monochromie, alors que lui, à chaque page, à chaque transition, à chaque changement de couleur, on sent l'intention derrière. On sent qu'il y a quelque chose de pas innocent.
La couleur sert le thème, en fait.
Oui. On veut guider le lecteur vers une ambiance, vers une façon de faire, vers un mode de pensée. Puis c'est intéressant parce que bon, tu parlais un peu du nihilisme, un peu de Jack London, mais en fait, aussi, il était nihiliste. Mais pour avoir lu Le Loup des mers aussi, où on a Capitaine Lou Larson et tout, ben, London, sans tomber dans le nihilisme, et je pense qu'on le sent bien ici, c'était pas quelqu'un qui avait entièrement confiance en l'humain, disons. Ou c'est pas quelqu'un qui...
Ça paraît presque pas.
Non, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui avait nécessairement foi dans la bonté
intrinsèque
de l'humain.
Mais pourtant, cette histoire-là, je trouve qu'il y a une soif de vivre dedans, moi.
Ah, je parle pas de l'idée de résilience, parce qu'il y en a, je veux dire, dans Le Loup des mers aussi, le jeune homme qui affronte Lou Larson aussi, c'est tout ça, et même, je veux dire, dans Cro-Blanc et tout, mais encore une fois, l'homme trompe, l'homme déçoit, l'homme et l'homme, et le rêve devient son transcendement.
En fait, quand tu y penses, là, puis pour faire encore des parallèles littéraires, quand tu y penses, il y a comme une leçon de stoïcisme là-dedans. C'est presque de la philosophie morale, ce que le personnage essaie d'appliquer. c'est carrément c'est cette espèce de rigueur de soi pour survivre à ce qui est dur en
ben,
soi. Là,
mais
ça n'a pas d'importance dans le récit, ça, en tant que tel. Ça n'a pas d'importance dans le sens qu'il se laisse aller finalement, mais il vit quelque chose de difficile. Puis, il a soif de vivre malgré tout, tu sais. Il affronte ce qu'il doit affronter. Regarde, la vie m'amène là. Ce que j'ai à vivre, je vais le vivre. That's it, tu sais. Mais il sait quand est-ce qu'il va mourir, c'est sûr, là.
Mais peut-être aussi que c'est contrepensé par le sentiment de non-finitude, dans le fait qu'à un moment donné, si tu sais, mettons, si on était capable d'avoir la certitude absolue que la réincarnation, finalement, ceux qui ont guessé que c'était ça, ils ont raison. Puis qu'effectivement, on se réincarne. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après, mais si tu acquiers ce sentiment-là, ben, tu sais que peu importe ce que tu es en train d'endurer, il va y avoir autre chose après, que c'est pas fini après, que tu vas aller vers un autre destin, que c'est pas ta finalité sur Terre. Ben peut-être que c'est plus l'espoir que que l'autre élément que tu mentionnais tantôt là, qui ressort. Là,
ah oui, mais là, t'es un peu, il n'empêche que je comprends. Si tu le prends au premier degré en plus de ça, c'est sûr que là, il parle de...
C'est ça, tu dis que je suis premier degré.
Ben, il parle de vie antérieure et tout ça. Puis la postface laisse entendre que Jack London était... était intéressé par ce genre de choses-là. Puis à la limite, tu peux dire que le personnage imagine ce genre de choses-là. Il y a quelque chose d'imbu de lui-même, ce personnage-là. Hein? C'est un personnage très sûr de lui au niveau intellectuel. Il est conscient de sa propre intelligence supérieure à celle des autres. Il n'a pas tout à fait tort là, quand on le voit, les gens qui le côtoient. Est-ce que c'est pas sa propre imagination qui délire, tu sais?
Mais c'est encore une fois, parce que comme je dis, c'est parce qu'au-delà de la finalité, au-delà du mécanisme en fait, parce que bon, là, on sait qu'ils vont justement, il est condamné, on sait, mais moi je tiens même pas compte de ça. C'est comme dans Marion Fayolle. Je veux dire, on sait que le père, il va y arriver, tu sais, il va mourir, il va, mais c'est pas ça que sert le rêve, c'est pas à empêcher cette réalité-là parce qu'on sait qu'elle va arriver. C'est comment on va composer avec elle.
Édouard, tu lances Marion Fayolle, est-ce qu'on serait prêt pour la transition?
Ben, en effet, hein, comme je disais, on garde cette finalité, donc cette mort qui arrive, et là, tout d'un coup, on pense, bon, d'un récit personnel, hein, ce tiers, donc la personne avec laquelle il faut composer, qui est visiblement un père avec lequel qui n'a pas toujours été facile. Mm-hmm. Mais avant de tomber bon, dans tout ça, moi j'avoue que ce qui m'a marqué, bon, parce que vous le savez, c'est moins les genres de récits vers lesquels j'aurais tendance à aller naturellement, et c'est pourquoi j'adore le club, justement, parce que pour toutes ces découvertes que ça nous fait faire. Je ne sais pas si c'est moi qui raconte, on va tomber dans le grand symbolisme et tout, mais la façon dont il défile les personnages, au premier coup, j'avais pensé à la tapisserie de Bayeux, mais la tapisserie de Bayeux m'a fait penser à la danse macabre. Au Moyen-Âge, puis là, on parle d'une mort, on parle d'un délitement, et on le présente d'une façon que j'ai trouvé ça très médiéval. Je veux dire, on remplace les squelettes et bon, les lépreux par les gens qui, eux, doivent prendre soin de ce père-là qui est en train, justement, de s'étioler tranquillement. Eh ben ça, et justement, avec la thématique de la mort, voilà, bon sens, c'est une danse macabre moderne autour d'un événement qui, là, ne touche pas, disons, toute une société, mais vraiment une personne et sa relation, c'est ça, avec son paternel.
Moi, j'ajoute ton idée de la... Je connais pas la danse macabre, celle qui est évoquée pas au Moyen-Âge, c'est ça. Mais par contre, la tapisserie de Bayeux, j'ajoute parce que au moment où tu l'as prononcé, tous mes souvenirs de lecture de cet album-là m'est revenu et effectivement, ça fonctionne comme ça. Parce que Dieu sait que j'ai lu des livres là-dessus parce que, bon, c'est considéré comme une des premières BD. Tu sais, ils la font rentrer puis dans toutes les histoires de BD, là. Et Dieu que j'ai lu là-dessus et tout. Et à la lecture de ça, là, un paquet de souvenirs m'est venu. Et oui, j'ajoute. Parce que effectivement, comme la tapisserie de Bayeux, ces images-là racontent une histoire, mais ils sont comme assez rapprochés. On colle des images en BD, on essaie de raconter un récit en succession d'images et donner l'impression de mouvement. Mais Dieu sait qu'il n'y en a pas de mouvement dans la tapisserie de Bayeux et dans cette BD-là. Par contre, au niveau des images, au niveau de l'histoire racontée en images, au niveau du mouvement, mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir du mouvement dans l'histoire. parce que c'est ça qu'on oublie, là, tu sais, en... donner l'impression de mouvement en BD, c'est pas rien que les images, là, de donner comme le cinéma. C'est le récit. Et ça, c'est réussi. Comme la tapisserie de Bayeux. Donc, pour moi, effectivement, je te remercie, Édouard, pour la piste. Je la jette et je vais la revendre.
Oui, parce qu'en fait, c'est quand je dis en introduction, c'est, personnellement, c'est le visuel qui capte en premier. Je pense qu'on a juste à feuilleter cette BD-là pour comprendre. Il y a un style visuel qui est quand même très, très particulier, qu'on n'a pas tant vu que ça, du moins moi de mon côté, à la hauteur de mes quelques lectures. C'est pas quelque chose que j'ai vu tant que ça passer en termes d'approche visuelle esthétique. Et au bout du compte, on est vraiment dans une approche un peu, en fait, comme le Vagabond des étoiles. Donc, on a une narration au jeu et la narration existe à côté de l'histoire qui, elle, est présentée par le dessin, par le visuel. Alors, j'aime bien l'idée de la tapisserie, effectivement, pour illustrer un peu cette thématique-là. Donc, dans la mesure où on a vraiment cette action-là qui est décomposée en mouvement, des fois, qui va être lancée avec un long narratif pour contextualiser ce qui se passe, autant que d'autres fois, à la fin, entre autres, là, on arrive avec une série de séquences où on dit « papa va mourir ». En haut, c'est le seul texte, et là, on arrive, après ça, on répète, on arrive avec une autre séquence, des choses comme ça, ou des balles, des éléments autour, donc, qui viennent un peu nous cadrer dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on est en train de traverser. Alors, je trouve qu'il y a un bel équilibre là-dedans qu'elle a su trouver, parce qu'encore là, ça aurait pu, pour moi, être un exercice casse-gueule aussi, là, je veux dire, c'est pas une BD, c'est une BD qui est surprenamment facile à lire et à découvrir, alors qu'elle peut annoncer quelque chose de franchement plus difficile à aller chercher, et dans lequel on y va aussi, et si on tombe un peu côté récit, dans l'expérience de l'accompagnement de la mortalité. Une expérience qu'on avait déjà vue d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, je me rappelle le sympathique thème sur le deuil et la mort, et la maladie que je vous avais proposé, mais on voyait différentes démarches autour du deuil, différentes relations, et je trouve que c'est intéressant d'explorer ça justement par ceux qui le vivent autour et par la vulnérabilité qu'on se laisse le droit d'avoir quand on décrit ça, parce que nos émotions ne se limitent pas à la tristesse vers le défunt en devenir, à l'accompagnement de la maladie comme telle, mais à la dynamique, à ce que ça change dans notre réalité, à l'impact que ça va avoir. Et Fayol ouvre plein de portes pour nous permettre d'aborder justement l'ensemble. Je pense qu'on est à 360 degrés dans l'accompagnement mourant là-dedans. Là.
Ben, il y a une générosité, je pense, dans ce qu'elle offre, hein, dans ce qu'elle nous présente, mais aussi une espèce de grande douceur. Mm-hmm. Surtout compte tenu que c'est ça, son deal avec la maladie d'un proche.
Tant
avec...
au niveau graphique que du texte. D'ailleurs.
Tout à fait, 100%. 100%.
Ça presque l'air. C'est quoi le niveau graphique? On dirait à mi-chemin entre le naïf, puis quelque chose de naïf, puis pourtant très adulte. Tu sais, je sais pas trop comment l'exprimer, notamment à cause beaucoup des images. Là. L'accompagnement, on dirait qu'elle fait son deuil, puis en même temps, elle cherche une manière de survivre, de continuer à vivre.
De faire la paix, ouais. Quelque part, avec le fait que, visiblement, puis j'utilise la magnifique page où elle montre une pierre usée par l'eau, ouais. Mais la pierre, au lieu de s'arrondir, elle brise les angles. Elle dit, même si la pierre est brisée, elle reste anguleuse, elle ne s'arrondit pas. Je trouvais ça parce que, j'en connais de mon j'en ai dans mon entourage du monde comme ça, et c'est pas parce qu'on les aime pas, justement, au contraire, mais ça fait partie de ce qu'ils sont et d'eux-mêmes. Mais je trouvais cette espèce de d'acceptation, de dire de naïveté, de regard.
Écoute, la mort comme un spectacle à la fin.
La mort comme un spectacle, mais aussi le fait que, justement, écoute, on peut pas passer à côté, on passera pas par-dessus, ça va être ça, et plus on avance, plus on perd des choses, mais ça garde justement cette espèce de délicatesse, je pense, de quelque chose de touchant, et qui sert bien un thème aussi, justement, touchant et délicat, parce que si elle était tombée, on parle souvent des DBD hein, qui tombent dans le pathos, mais que, si ça avait été le cas là, je pense que ça aurait vraiment pas fonctionné.
Ça aurait jeté l'eau.
En effet, tu sais. Ça m'amène, parce qu'il faut bien transitionner, hein, vous voyez, je suis un peu paresseux ce soir. Mais on était justement, et je vais y aller avec le symbolisme, parce que autant que j'ai retrouvé, comme je disais un peu, la danse macabre et la tapisserie de Bayeux dans Marion Fayol, autant qu'en lisant Coma, et je parle au début, bon, vous allez me dire, c'est pas exactement ça, mais dans une certaine mesure, ce qui m'a frappé, c'est que c'est la matrice.
Ah, j'y ai pensé.
Moi c'est aussi. Le film de Matrix, avec la jeune héroïne spéciale, avec le fait que la vraie vie, enfin, la vraie réalité, elle la découvre quand elle rentre, quand elle tombe endormie, quand elle tombe dans le rêve, et que là, elle découvre ces créatures-là, les machines, donc le vrai monde qui fait fonctionner tout ça derrière. Et donc, comme dans la matrice, bon, on dirait que là, tout d'un coup, cette ville-là, justement, industrielle et tout, n'est qu'une espèce de faire-valoir, une espèce de faux-semblant, alors que la réalité des choses, et on le voit aussi par justement les agents du gouvernement, parce que, bon, il y a une partie des travaux qui se déroulent en ville, c'est pour essayer de trouver ces machines et ces créatures-là pour en prendre le contrôle.
En fait, tout le monde travaille dans un coma. Ouais, tout le monde travaille, tu as des ouvriers, comme la petite fille et son père, puis leurs amis, là, ben, qui sont vus comme des adversaires au début. Tu as les fonctionnaires qui sont vraiment mis comme étant des personnages. On dirait quasiment, là, vous allez me traiter que j'ai atteint le point Godwin, là, mais on dirait le fonctionnaire que décrit Anna Arène là, dans Les Origines du Mal. Il n'y a pas d'imagination. Il fait fonctionner la chose. Okay, c'est pas pour les mêmes affaires, on s'entend, mais il n'a pas d'imagination. Il ne fait qu'à fonctionner les choses et tu as la sécurité. Puis là, tout ça fonctionne de même. Puis le monde d'en dessous, il n'empêche qu'elle a une vibe un peu infernale, ne serait-ce qu'à cause du pseudo-chef, là, en tant que tel. Ça donne l'impression que finalement, le monde dans lequel on vit, c'est un enfer et tout ça. En tout cas, c'est assez particulier, les symboles que tu peux chercher là-dedans. Et jusqu'à l'hôtel où finalement, les gens ne cessent de changer d'identité. Constamment, là, cet hôtel-là qui peut être soit un lieu de passage ou peut-être même vu comme l'au-delà en tant que tel. C'est assez... On peut se poser clairement la question, mais les gens ne cessent de changer d'identité rendu là et ils sont constamment en voyage. Alors qu'avant, ils sont toujours en train de travailler. Là, mais toujours.
Je suis content que tu l'aies remis sur le club parce que ça faisait longtemps que je l'avais lu. À sa sortie, je lisais les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortaient, et parce que c'est paru en 4 ou 5 tomes. On les vendait pour jeunesse. C'était classé jeunesse. Parce que, la jeune fille, la petite fille, la fillette, et tout ça, c'était sympathique. Parce que, bon, veux pas, le dessin est quand même sympathique. C'est Peters qui est au volant du dessin. Puis, et tout ça, puis je suis content de l'avoir lu de l'avoir relu d'un coup, en intégrale, comme ça, ça donne une perspective un peu plus... Puis l'album a maturé, a pris une maturation un peu avec tout ce qu'on vit, puis on regarde, puis effectivement avec le thème. Mm-hmm. Alors moi, pour moi, la clé de ça, c'est ses absences. J'adore les histoires avec des personnages qui ont des absences. C'est vrai! Qu'est-ce qui se passe dans ces absences? Et elle le note! Elle les note et elle calcule le moment où ça va. Et c'est drôle parce qu'il se passe toutes sortes de choses après ces absences et ces fameuses créatures. Bref!
C'est vrai, regardez la constante des trois derniers clubs de lecture, je veux dire, avec Essence, où le gars se souvenait de rien, avec J'ai tué le soleil, où le gars se souvenait de rien. Je pense que Marco essaie de nous passer un message.
Et Pyramus, qui dès le départ veut oublier.
Oui, qui voilà. Veut oublier. T'as-tu un Alzheimer que tu nous as pas...
Est-ce que j'aimerais avoir un Alzheimer? C'est ça la question. Oublier toute cette réalité et plutôt la rêver. Voilà, je pense que c'est l'aboutissement d'un paquet de... Mais c'est ça pour Coma... Cette relecture-là a été, pour moi, jouissif parce que ouais, j'avais oublié un peu tout le truc. Là, et effectivement, ces absences-là qui créent... Et là, je trouvais que c'est toi qui avais le plus ciblé dans le rêve-réalité, là, avec la petite qui rêve, qui a des absences et soudain, tu sais, au fur et à mesure qu'avance l'histoire, là, elle va de plus en plus profond dans
fait,
la ville.
La réalité devient le rêve.
Et finalement, plus elle va plus profond, plus cette réalité, tu sais, la machine qui la gère est gérée par une créature. Voilà.
En fait, j'ai trouvé, ça fait sincèrement, c'est vraiment une belle découverte de mon côté. Moi, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, cette BD-là. Et c'est le genre de bouquin qui, pour moi, tu lis d'une traite, je le dépose pas, je veux savoir ce qui arrive. Et surtout, je veux comprendre ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, tu comprends très bien que Wasem et Peters, ils vont te donner toute l'information dont tu as besoin pour comprendre l'univers et que cet univers-là, il y a malgré un chaos peut-être apparent au départ ou en cours de route, il y a des règles qui sont claires, qui sont finies et qui méritent d'être découvertes. Enfin, je pense que c'est un monde qui mérite d'être découvert. Et dans le fond, on le découvre au fil des pages, au fil des séquences. On comprend tranquillement les règles, on comprend tranquillement les dynamiques que vous exposez. Et au bout du compte, l'histoire, c'est cet univers-là qu'on découvre plus que les péripéties du personnage. La comparaison avec la Matrice, ça, c'est bien aussi parce qu'on a un personnage qui est capable justement de transcender les réalités pour amener la réalité ailleurs. Donc, il y a une richesse là-dedans. Il y a des moments qui sont absolument superbes aussi. Des moments très, très doux, très calmes, empreints de poésie, autant dans la violence que dans l'amour, au bout du compte. Là. Qu'on pense à une séquence, par exemple, où un des monstres se fait tranquillement torturer par un docteur qui le fait un peu à reculons, mais qui, par après, dans le fond, va accompagner la créature, la guérir, etc. Il y a comme un moment, c'est très particulier comme moment. Et on le lit de façon particulière parce que, clairement, il s'est vécu de façon particulière. Autant qu'en termes de beauté, tu parlais de personnes qui changent d'identité. On va y aller avec des spoilers, là. Mais lisez l'album, pareil, c'est vraiment excellent pour se rendre jusque-là. Mais où, finalement, il y a deux personnages qui se reconnaissent dans ces changements de personnes-là. Et à un moment donné, justement, on remarque qu'ils vont passer leur vie désormais à se retrouver constamment et à être heureux de se revoir et à être heureux de se retrouver. Et c'est tellement beau comme image et c'est tellement beau comme rendu. Et je veux dire, ce livre-là, il est truffé de moments comme ça, de moments de grâce qui sont intégrés dans la construction d'un monde qui est parfaitement cohérent avec une réflexion au départ. Donc, non, sincèrement, là, pour moi, ça a été un très, très beau moment de lecture, ce livre-là. Là.
Bien, en parlant de beaux moments de lecture, hein, parce que oui, comme je disais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir également à retrouver ça, à voir justement comment on allait orienter, comme Raymond disait, comment qu'on découvre tranquillement cette mécanique et ses côtés, justement, appelons-le le bout de l'hôtel mystique, là, mais je veux dire, parce que on peut pas vraiment vous l'expliquer d'une manière qui serait concrète et intelligente, mais je veux dire, vous allez découvrir ce bout-là et vous allez voir tout ce que Raymond disait. Il y a une poésie là-dedans. Et encore une fois, c'est le rêve, c'est la non-réalité qui vient nous sauver de cette espèce de ville sinistre où, comme disait Jérôme, où on est condamné à ce travail-là un peu bête, à pas trop poser de questions et tout. Mais encore une fois, c'est l'oubli, c'est la dissolution presque de soi, en fait, dans une autre réalité qui nous sauve de l'horreur, ou en tout cas du terrible, du réel. Et on parlait de plaisir de lecture. Je pense que je ne pourrais pas avoir de plus belle transition que ça. Parce que je vais l'utiliser, et ça, sans embâge et sans regret. Pérammus est un absolu. Je sais qu'on l'a galvaudé, je sais qu'on en rit beaucoup, je sais qu'on on fait bien des running gags avec ça, mais je pourrais pas vous dire à quel point. Bon, je connaissais déjà Brecchio, je savais de quoi il était capable, mais j'ai lu la BD, écoutez, c'est un pavé, je l'ai lu tout d'une traite, j'ai passé 4 heures non-stop à traverser ça, et j'ai sorti ça comme. Je suis sorti de là comme Saint-Paul sur le chemin de Dars. Écoutez, l'épiphanie dans le front. Le génie symbolique de tout ce qu'il va mettre en place, de l'allégorie de la dictature, le génie de l'histoire, de tous ces symboles. C'est un chef-d'œuvre littéraire, là, mais je veux dire, ça s'essuie les pieds sur beaucoup de romans prétendument littéraires et intelligents. Là. Si vous voulez vraiment découvrir quelque chose qui dépasse l'entendement en ce terme-là, là, Alberto Breccia, Pérammus, ça n'a pas de bout, j'ai même plus de mots, j'ai même plus envie de parler.
Mais en fait, pour te corriger sur un truc, c'est pas nous qui avons galvaudé le chef-d'œuvre absolu. C'est les pseudo-critiques qui utilisent ça à tout bout de champ. Mais nous, quand on le mentionne, c'est parce que vraiment, seul l'est. Soyons prétentieux. Et au niveau du symbolisme, je regardais Effectivement, Pyramus, et l'édition de Futuropolis, cette intégrale-là, je pense que l'image qu'ils ont choisie, la case qu'ils ont choisie pour couverture, écoute, résume, on y voit un Borges avec sa canne, la brandissant comme une arme, au travers de soldats. C'est comme pour vaincre la tyrannie, la littérature et l'intelligence va... Bon, je ne suis pas sûr que ça marchera en Ukraine en ce moment, mais quand même, il y a quelque chose de symbolique et qui résume tout à fait Pyramus.
Qui est très littéraire, d'ailleurs, parce que en dehors du personnage de Borges, le récit est très Borges. Quiconque a lu Borges, on reconnaît son amour des histoires labyrinthiques un peu.
L'empreinte du réalisme magique est constant, évidemment.
Absolument. Et Brechia et Sasturin.
Sasturin, le scénariste.
Excusez-moi, le Brechia et Sasturin. Donc, ce que je trouvais intéressant, parce qu'ils parlent de leur pays d'origine, un peu ni moins, ou en tout cas, semi, là, pour un des deux, du moins.
Les deux,
OK. Merci, Arco. Il questionne, à travers ce personnage-là, de Borges, il se permet quand même de questionner l'auteur en question, qui est un symbole, pourtant, un symbole assez important de la littérature nationale, là, et... En tout cas, le personnage dit, vous n'êtes pas de droite, vous, mais non, mais tu sais, c'est pas aussi simple que ça, finalement, classer les personnages et les gens comme ça. Puis ça montre justement l'ampleur de, comment dire, donc, de ces récits-là de Borges et de Pyramus ici en même temps, là, qui, malgré le fait que ça parle de quelque chose de pas drôle, c'est-à-dire une dictature. Il y a quand même une sorte de légèreté dans l'aventure, c'est-à-dire les personnages, c'est des. Ils ont un petit quelque chose de truand, puis ils vivent de l'aventure.
Le clandestin.
Oui, c'est ça, exactement. Hein? Puis bon,
la force du cirque pour confronter l'industrie du guano. Tu ne peux pas avoir quelque chose de extraordinairement éclaté que ça. Là,
ouais, ce chapitre-là, là, qui utilise même le mestis pour trouver les personnalités de la ville, là, ça, c'est, c'est vraiment magnifique.
En fait, ce qui aide beaucoup dans le récit, c'est vrai que c'est un pavé. Et c'est une intégrale. Mais au niveau de l'apparition dans les magazines et tout, c'était 6 chapitres de 8 à 9 pages. Donc, chaque histoire est comme divisée en
court chapitre.
En court chapitre ou en tout. Ce qui aide beaucoup à la lecture, mais structuré d'une façon magistrale là, par le scénariste et puis mis en image par Brechia. Mais. C'est ce qui aide beaucoup à... Et au fur et à mesure qu'avance, on sent que le scénario est écrit, structuré, désigné. Et à mesure qu'avance le truc, on leur confirme qu'un nouvel épisode peut être OK. Et comme les Sud-Américains, Borges, Cortázar, alors le flirt avec le fantastique, le flirt avec l'imaginaire, là, c'est... totalement maîtrisé. On dirait que les Sud-Américains avaient ça dans le sang.
Ils en ont peut-être eu besoin beaucoup. Hein?
Oui, pour s'échapper ou pour faire en sorte que... Oui, effectivement.
Mais ils ont pas parlé, moi, mais c'est une des grandes vedettes de la BD, le dessin de Brechia, quand même. Là. Son noir et blanc, c'est sa signature.
Brouillard.
En soi, là,
Brouillard.
Enfin, Marco dit brouillard, puis je pense qu'effectivement, ça résume. Parce que j'ai pas l'impression que je pourrais ajouter quelque chose sur le récit. C'est vraiment un ouvrage qui... Je veux dire, qui laisse une impression forte, indépendamment de l'ensemble. Et dès le visuel aussi, j'ai l'impression que dès qu'on commence à feuilleter cet élément-là, on est happé par l'ambiance qu'on nous propose, par le dessin, par la brume que tu disais tantôt, Marco, j'aime bien le qualificatif. En fait, je veux dire, il y a quelque chose de particulier qui en ressort et qui met le plancher pour le reste aussi, pour l'ensemble des éléments qui viennent se composer, les faciès, les éléments. Je veux dire, il y a quelque chose de particulier qui s'en dégage. Sont là comme ça, j'ai pas eu l'occasion tant que ça de voir d'autres ouvrages du dessinateur, mais ça donne envie de voir un peu justement comment il exploite ce style-là dans d'autres contextes.
Brechia a changé de style à beaucoup de reprises. Le cœur révélateur est pour moi un petit chef-d'œuvre de nouvelles en bande dessinée, à utiliser à peu près 4 cases et à les répéter sur 6 ou 7 pages avec noir et blanc, et il a raconté Dracula à peu près dans ce genre-là, mais avec des couleurs, Il a fait des trucs sur Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Le Chat Noir et tout. Ouais. Bref, il a beaucoup... il ne s'est jamais assis sur un style en particulier. Il a toujours développé ce style-là dans plusieurs registres. Celui-là, je le trouve très abouti parce qu'effectivement, on parlait de brouillard. Je te dis brouillard parce que il y a comme une brume dans l'application des couleurs, son noir et blanc et tout, là, ce qui vient amplifier un peu la clandestinité des personnages, ce qu'ils font de leur quête dans cette dictature-là. Mais c'est vraiment varié chez Breaker.
Oui, c'est ce qui fait un peu, je veux dire, on parle de chef-d'œuvre ou de grande-œuvre, etc., mais je veux dire, il faut qu'il y ait l'adéquation entre le dessin et le texte. On ne peut pas avoir un chef-d'œuvre avec juste un des deux éléments. Il faut qu'il y ait une parfaite harmonie des deux au service du récit et au service de l'ambiance et au service de tout ce qui entoure le livre. Et j'ai l'impression qu'on arrive justement à ce métissage-là dans cet ouvrage-là. Et d'autant, dans le fond, si tu me dis qu'en plus, ben, justement, au niveau visuel, on adapte, on développe, on oriente les choix, pas en fonction d'un style prédéterminé, mais vraiment en fonction des besoins de l'album, des besoins du récit, des besoins de l'ambiance qui est nécessaire, dans le fond, dans ce contexte-là.
Ça me ramène toujours, et je me dis, il va falloir se faire un club là-dessus, à cette foisonnance des Sud-Américains mm-hmm. en termes de bande dessinée. Bon, j'avais présenté Risso, hein, on parlait, mais c'est surtout en regard, justement, hein, de l'Amérique du Sud, il y a eu justement beaucoup de régimes dictatoriaux, il y a eu beaucoup de pauvreté. Ces auteurs-là ont passé bien souvent à travers des choses extrêmement difficiles, leur pays a passé à travers des choses extrêmement difficiles, et on leur rend avec tellement de puissance, je dis d'intelligence, mais plus au-delà, encore plus que de l'intelligence, une puissance, parce que c'en est pratiquement animal, c'en est pratiquement instinctif, ça va vous chercher dans l'émotion, dans le cœur.
C'est une tragédie, ça, en fait. C'est Pérabus, sauf sur une tragédie, après on tombe dans le symbolique, mais le début est d'un réalisme cru malgré tout.
Ah, mais c'est ça que je dis.
Que je veux oublier.
Oui.
qu'il veut oublier, tout à fait. Mais ces Sud-Américains-là, là, je veux dire, il va falloir en reparler un moment donné parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de richesse dans leur production illustrée, c'en est effrayant.
Alors, c'est pas les idées de thématiques qui manquent. Je rappelle les quatre titres qu'on a parlé pour ce mois-ci. Alors, à rebours, dans le fond, on vient de parler de Pérabus, la ville et l'oubli d'Alberto Breccia et Juan Sasturain. On a parlé juste avant de Coma. Donc, pour Pérabus, c'est chez Futuropolis. Coma de Pierre Oisem et Frédéric Peters, c'est aux Humanoïdes Associés. Juste avant, on a parlé de Marion Fayolle, La tendresse des pierres chez Magnani. Et ensuite, on a parlé du Vagabond des étoiles de Riff Rebs d'après Jack London, c'est chez Noctambule. Alors, c'était la thématique de Marco Rêver la réalité. Alors, je remercie bien bassement mes collaborateurs Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette. Merci à vous trois. Et on se retrouve pour La vie en BD la semaine prochaine, mais pour le Club des lectures le mois prochain. Ce sera une thématique que je vous ai proposée. Donc, on parle de BD. Qui parle de BD? Alors, on va voir qu'est-ce que ça va nous mener. Sûrement vers quatre appropriations différentes de la même thématique. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous ici à La vie en BD. Et on se dit à la semaine prochaine.